Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité. Pendant la semaine, deux sujets ont été retenus pour vous ce soir, à savoir l'épidémie de choléra sévit dans 20 des 26 provinces de la RDC. Le gouvernement affirme avoir pris des mesures pour éliminer cette épidémie. Nord Kivu, des journées villes mortes pour dénoncer l'insécurité à Beni et à Butembo. La société civile de ces deux villes exige la démission du comité urbain de sécurisation. Participe au débat Nico Faye Mbikay, journaliste et collaborateur au groupe des presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. Nico Faye Mbikay, bonsoir. Edmond Izouba, journaliste à la RTVS 1, une télévision privée qui est médée depuis Kinshasa. Bonsoir Edmond Izouba.
Bonsoir madame et merci pour l'invitation.
Et Jean Fundi Kiparamoto, journaliste à la radio Flambeau de l'Orient qui est médée à Kisangani dans la province de la Tchopo. Jean Fundi, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Alain Hung.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont fait l'actualité cette semaine. Commençons par la mise au point du rassemblement sur un éventuel troisième dialogue. L'idée d'un troisième dialogue n'est pas à l'ordre du rassemblement et il ne le sera sans doute jamais, a indiqué Félix Tshisekedi dans une mise au point rendue publique jeudi 14 septembre, rapporte Le Potentiel. Casinfo.ca, qui commande cette actualité, constate que pas grand monde ne se bouscule à la porte d'un éventuel troisième dialogue. Le site web d'information note qu'en dehors du rassemblement piloté par le tandem Tshisekedi Lumbi, le candidat déclaré à la présidence de la République, Moïse Katumbi, n'est pas non plus favorable à l'idée d'un troisième dialogue. Autre sujet traité dans la presse, c'est la rentrée parlementaire prévue ce vendredi 15 septembre au Palais du Peuple à Kinshasa. La prospérité renseigne que durant cette nouvelle session du Parlement, les députés de l'opposition promettent de tout faire pour pousser Bruno Tshibala à la porte de sortie. L'Avenir, qui s'intéresse à cette actualité, parle d'une rentrée parlementaire de tous les enjeux, relevant le fait qu'elle devrait être la dernière conformément à l'accord politique du 31 décembre 2016 et inscrire parmi ses priorités les matières liées à la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016. Le journal dit s'attendre à des débats très acharnés devant les assemblées plénières. Forum des As, qui aborde la même actualité, invite les sénateurs, qui effectuent également leur rentrée ce vendredi, à solliciter leur sagesse pour résoudre plusieurs dossiers clés de la vie nationale qui se sont amoncelés sur la table pendant les 3 mois de break. La conférence de presse de la majorité présidentielle a aussi attiré l'attention de la presse quinoise. La MP va-t-elle soumettre au peuple le projet de référendum ? Non, répond la prospérité. C'est ce qu'il convient de retenir, poursuit le quotidien qui se fie aux propos tenus par le porte-parole de la plateforme de soutien au président Joseph Kabila lors d'une conférence de presse organisée à Kinshasa. À ce sujet, le Phare reprend la position de la MONUSCO qui renvoie MP et opposition à l'accord de la CENCO. Fabienne Pompei, porte-parole AI de la MONUSCO, a expliqué qu'il n'y avait aucune raison de parler de la tenue d'un référendum, d'autant plus que l'accord du 31 décembre 2016, cadre légal régissant actuellement le fonctionnement du pays conformément à la Constitution de la République et à la résolution des Nations Unies pour la sortie de crise n'en font nullement mention, écrit le journal. Forum des As reprend également le discours d'André Alain Atundu qui affirme « L'essentiel n'est pas une date butoir ou apocalyptique. Le plus important pour l'AMP est l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles dans un climat apaisé. »
Merci Alain Rung pour ce journal des journaux. Nico Faye Mbikay, parlons de la rentrée parlementaire, ouverture ce vendredi de la session du mois de septembre. Cette session est considérée comme la toute dernière si l'on se conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoit des élections à la fin de cette année. Mais au regard de la situation politique des l'heure, la session parlementaire de septembre, quoique essentiellement budgétaire, pourrait sans doute prendre des couleurs hautement politiques.
Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous avez bien voulu encore nous accorder ces jours. Oui, nous savons tous généralement que la session de septembre, elle est essentiellement budgétaire, mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'il y a d'autres sujets, on ne peut pas s'en passer si ces sujets ont un caractère aussi pressant ou bien urgent. Je ne vois pas dans quelle mesure on peut s'en passer de ce dossier-là. Mais quant à dire que c'est le dernier, la dernière session vis-à-vis de l'accord, moi je me dis, le même accord pour lequel les gens aujourd'hui brandissent, le même accord, je suis le seul Congolais à l'avoir dénoncé en amont, mais les mêmes gens qui ont milité, qui ont fait tuer mon peuple pour que cet accord ait lieu, qui ont eu aussi à ajouter une incise selon laquelle, et si les élections ne sont pas organisées avant le 31 décembre, la tripartite, c'est-à-dire CENI, CENSA et le gouvernement pouvaient statuer et évaluer. Est-ce que cette disposition cela n'est-elle pas conforme à l'accord que vous brandissez tant? Moi, je pense qu'il faut parfois être correct dans la vie. Vous avez fait tuer mon peuple inutilement, vous avez promis des choses aux gens, mais là, c'est là, vous avez été roulé et qu'aujourd'hui, vous voulez faire encore tuer mon peuple inutilement, comme si le 31 décembre était le délai de victoire. Je n'ai jamais été d'accord avec tous les gens qui ont eu à parler dialogue au Congo. Je leur avais dit que le dialogue, quelle que soit leur forme, quel que soit celui qui va les piloter, ça ne va pas donner grand-chose. Ils ne m'ont pas écouté, ils ont fait tuer mon peuple inutilement, qu'aujourd'hui, on revient encore à cette politique de date. Madame, nous ne sommes pas à la première date. Il y a eu beaucoup de dates au Congo et au finish, on n'a rien vu. Il n'y a eu que des pertes en vies humaines.
Edmond Izouba, qu'est-ce que vous pensez de ce troisième dialogue dont on parle tant ces derniers temps?
Moi, je crois que troisième dialogue, quatrième dialogue ne peut qu'exister dans le tête de gens qui pensent vraiment y participer et prendre encore, je ne sais pas quel courage auront encore ces acteurs politiques ou ces leaders politiques d'y prendre part. Mais il semble que, d'après les informations à ma disposition, que se négocie à partir de New York, où certain nombre des autorités congolaises s'y trouvent. Je parle de Corneille Nangaa, je parle de Tshibanda Raymond, ancien ministre des Affaires étrangères. Et puis hier, nous avons tous appris que Félix Tshisekedi a volé pour New York également. Le président de la République se rendra là-bas. Vous avez suivi la position de la France qui soutient éventuellement ces dialogues. J'ai lu une manchette d'un journal ici à Kinshasa, le potentiel qui en a aussi fait mention. Donc, je suis en train de me dire si la classe politique a effectivement ou sérieusement compris le vrai enjeu que le pays est en train de traverser en ce moment. Ils sont allés au dialogue avec le seul objectif, réduire les volumes des contestations lors de l'application de résultats. Mais aussi parce qu'en 2016, ils ont fait rater à la population congolaise la tenue, je parle du régime en place, mais qu'à cela ne tienne. Rien n'a obtenu quelque chose de concret jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous constatons actuellement, il n'y a pas de volonté dans le chef du président de la République, parce que c'est lui qui est le responsable de la crise actuelle. Pourquoi je dis qu'il est le responsable? Il est le seul à avoir fait 16 ans au pouvoir, il est le seul à avoir dirigé un plus 4 et deux gouvernements de suite, et plutôt deux régimes de législature de suite. C'est lui qui nomme, c'est lui qui signe toutes les ordonnances, c'est lui qui a placé Matata, c'est lui qui a placé tout le chef du gouvernement, et ils n'ont pas réussi à organiser les élections. Donc aussi longtemps que lui seul ne sera pas à la mesure d'organiser ces élections, je ne vois pas un opposant qui viendra de dehors qui les organisera.
Jean Fundi, vous êtes revenu à partir de la province de la Tshopo. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Dans la province, je pense que les radios ont couvert différemment les faits qui sont survenus. Il y a d'abord l'élection du gouverneur qui continue à faire peser son odeur dans la ville, mais pas vraiment, à siphon des morts qui se sont, des gens qui sont morts, par exemple, le rapporteur qui est mort, alors qu'il est venu voter très malade à l'Assemblée. Ça mérite bien des rumeurs, mais trop peu de radios en parlent. Il y a aussi la levée des suspensions par les gouverneurs intérimaires, des suspensions qui avaient été signées par l'ancien gouverneur, M. Jean Tokolé, qui commence à faire débat. Mais ce qui fait débat vraiment, qui prend la tête de l'actualité, c'est la mise en garde du CESAC à l'endroit du directeur de la radio, de la chaîne provinciale RTMC, à l'endroit de M. Max César, sur la plainte de l'Assemblée provinciale, selon quoi le Max César avait laissé passer un communiqué sur les antennes, un communiqué signé par le vice-président de l'Assemblée, autoproclamé président de l'Assemblée en période de crise, à l'époque où Tokolé et l'Assemblée étaient à côté tirés à propos de la motion. Voilà. Quant à, aux études, nous, de la radio Flambeau de l'Orient, nous avons beaucoup couvert la grève des professeurs qui avaient été décrétés la fois passée, mais aussi la menace de grève n'est pas mise à exécution. La levée de la grève par les chefs de travail et les assistants, la levée de 10 jours qui va prendre fin d'ici le 21, donc si je vois bien à la fin de la session. Voilà ce qui est bien couvert par les médias de la ville.
Nico Faimika, il y a aussi l'arrestation du journaliste Jeff Mwingam, qui est éditeur du journal Le Fédéral, par Eswal Mumbashi, dans le Haut-Katanga. Il est accusé d'avoir porté atteinte à la dignité de Madame la ministre provinciale du genre, famille et enfants de la province du Haut-Katanga, dans un article paru dans la dernière publication de son hebdomadaire. La corporation des journalistes, à savoir l'UNPC et GED, sollicite sa libération. Je rappelle qu'il a été transféré mardi à la prison de Kasapa Lubumbashi, deux semaines après son arrestation.
Oui, madame, nous ne pouvons jamais accepter qu'un confrère soit arrêté dans ces conditions-là. Mais devant un fait accompli, devons tous batailler pour que qu'il soit acquitté. L'arrestation est une chose et la condamnation aussi en est une autre. Si nous en sommes déjà à ce niveau de la prison, j'estime, parce que pour que quelqu'un soit transféré en prison, il faut qu'il y ait un mandat de dépôt établi par le magistrat. À ce stade, ce que moi je peux demander aux confrères qui sont sur place et à sa famille génétique, l'heure n'est plus encore à se lamenter, l'heure est au moment de peaufiner des stratégies et surtout aussi au collectif de ses avocats de peaufiner, de mener les recherches pour gagner ces procès.
Edmond Izouba, un mot sur l'arrestation de ce confrère.
Moi, je ne peux que condamner d'abord la ministre qui a fait arrêter le journaliste aussi qui a honnêtement fait son travail, mais il y a aussi cette passivité de la corporation, je parle de GED et de l'UNPC. Je ne comprends pas à chaque fois quand il y a des abus ou des arrestations, parce qu'ils sont le premier à les dire, que la place des journalistes se trouve à la rédaction et non dans le centre pénitentiaire, mais également parce que la place des journalistes se trouve à la rédaction, il y a des mécanismes avant d'aller devant le cours des tribunaux. Je crois que ce sont des mécanismes qui n'ont pas été respectés. Est-ce que le journaliste a été signifié par un mandat de comparution, mandat d'arrêt? J'en doute fort de la manière dont il a été arrêté et jeté en prison. Donc il faut aller agir dans le sens des actions. Nous avons toujours réclamé dans ce pays la loi sur la dépénalisation des délits de presse, la loi en général sur la liberté de la presse, où il y a également le chapitre sur la dépénalisation des délits de presse. Mais l'UNPC ne fait absolument rien, parce qu'on ne va pas nous la proposer sur un plateau d'or comme si c'était des omelettes. Donc il faut des actions concrètes sur terrain, des journalistes qui faciliteront l'adoption rapide, parce que le texte est déjà au Parlement. Il faut maintenant pousser à ce que le parlementaire s'occupe désormais des journalistes. Donc ce n'est pas anormal, nous ne pouvons pas cautionner. Depuis que l'UNPC existe, depuis que le GED existe, c'est limite seulement dans des déclarations, pendant que les journalistes sont en train de souffrir. Merci. Il n'est pas le premier. Derrière ce journaliste, il y a encore plein d'autres journalistes qui sont séquestrés et subissent le même sort. Il y a de médias, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, j'estime que les journalistes qui sont en train de nous suivre à travers la République démocratique du Congo, leur est venu pour que nous puissions nous rassembler, dévancer par peut-être la corporation et faire en sorte que cette loi sur la liberté de la presse soit très vite adoptée.
Jean Foundi, brièvement, est-ce que dans votre province, par exemple, les journalistes exercent librement leur métier?
Je pense que oui, généralement. Je pense qu'il faut féliciter le bon rapport entre les officiels aux journalistes, sauf que pendant la dernière élection de gouverneur, le gouverneur de province avait séquestré un journaliste avant le premier tour. On l'avait séquestré brièvement et les gens avaient réagi. Il y a d'abord le MPC et la radio fermée de l'Orient elle-même. Mais aussi, il y a des journalistes qui, comme je le disais, les journalistes qui ont dépassé leur... qui sont allés en dehors de leurs compétences pour peut-être, au moment des élections, disons, proférer une sorte d'injure. À la limite des injures envers le candidat. Mais à Kisangani, mieux qu'avant, il n'y a pas vraiment de journalistes qui sont vraiment inquiétés.
Merci. Parce
que l'on commence à avoir la tendance concrète que certains journalistes se permettent un peu tout, n'importe quoi envers les officiels. Voilà.
Merci. Jean Foundi, premier thème de ce soir, 20 provinces sur les 26 que compte la RDC sont touchées par l'épidémie de choléra. L'OMS qui fournit ces statistiques précise que plus de 24 000 cas suspects sont enregistrés avec plus de 500 décès. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique affirme avoir mis en place un programme d'élimination du choléra et des contrôles des autres maladies diarrhéiques. Plus de détails avec vous, Blaise Makassi.
La maladie touche déjà des grandes villes du pays comme Bandundu-Ville, Bukavu, Goma, Manono, Malemankulu, Minova, Mokala, Kimpese, Uvira et certaines zones de santé de Kinshasa, affirme l'OMS. Et le risque de propagation demeure encore très élevé vers la région du Grand Kasaï, où les conditions sanitaires et sécuritaires dégradées accroissent encore la vulnérabilité face à cette épidémie. À la date du 2 septembre, les autorités de la RDC ont déjà recensé un total cumulé de plus de 24 000 cas suspects, avec 528 décès. Pour accompagner le ministère de la Santé publique, l'OMS a élevé l'épidémie au grade 2 du cadre de la réponse d'urgence et déployé un groupe d'experts internationaux pour appuyer l'élaboration d'un plan d'urgence pour la réponse à l'épidémie. L'OMS estime que l'approvisionnement en produits pharmaceutiques est un enjeu crucial, y compris les coûts opérationnels des transports de ces intrants vers les zones les plus touchées. C'est dans ce contexte qu'il s'est engagé à donner une contribution financière immédiate de 400 000 dollars américains pour le déploiement des équipements techniques dans les zones prioritaires. La lutte engagée pour contenir rapidement les choléras en République démocratique du Congo entre donc dans une nouvelle phase avec les niveaux d'engagement du gouvernement, de l'OMS et des autres partenaires.
Merci Blaise Makassi. Edmond Izouba, je rappelle que vous êtes journaliste à la RTVS1, une télévision privée, oui, qui émet depuis Kinshasa. Comment vous analysez cette situation, 20 provinces sur les 26 que compte la RDC touchées par l'épidémie de choléra? C'est quand même alarmant.
C'est très grave, surtout pour la RDC où vous avez une forte densité de la population évaluée à plus de 70 millions et vous avez pratiquement tous les pays qui est touché. Et ce que je déplore et je continue toujours à le dire, il n'y a pas de mécanisme de prévention de manière régulière en République démocratique du Congo. Donc nous avons comme l'impression que l'État congolais et surtout ceux qui œuvrent dans le domaine sanitaire, ils jouent à la défensive. Donc nous attendons à ce que la maladie ou les épidémies atteignent d'abord la RDC pour que nous commençons à le soigner. Pourtant, il y a des mécanismes, il y a des services, surtout pour des maladies de main sale, qui existent dans pratiquement dans les maisons de l'État. Vous avez les maisons communales, il y a des services d'hygiène, il y a la lutte contre la salubrité, mais ces services-là sont quasiment inexistants à ces jours. L'État ne finance nullement ces services, ils n'ont pas des outils, ils n'ont pas de matériel. On est là que pour contempler des morts. Et actuellement, à Pacajuma, nous attendons à ce qu'il y ait des morts pour que le gouvernement commence à agir à travers ces cris d'alarme de l'Organisation mondiale de la santé. Outre cela, il y a manque de la politique sanitaire en République démocratique du Congo, et cela dans toutes les maladies virales. Donc l'État aujourd'hui manque des politiques sanitaires pour combattre efficacement et dire de manière définitive bye à ces genres de virus. Nous avons comme l'impression que les Congolais sont exposés. Vous voyez maintenant, c'est pas Kadjuma. Pourtant, c'est depuis longtemps que on décriait comment est-ce que les gens vivaient dans ces camps de fortune, on décriait comment est-ce que la vie s'est déroulée là-bas, et voyez même les cortèges présidentiels
passent par là. Parce que la population n'a pas une part de responsabilité. La population, elle n'a pas une part de responsabilité.
Non, madame, je parlais des services. Allez d'abord vérifier si réellement ces services exécutent son travail comme il se doit. Quand vous allez, par exemple, dans le service d'hygiène, mais eux-mêmes même sont exposés à des maladies, comment ils iront travailler ou recommander
sensibiliser la population?
Non, impossible. Donc, il n'y a même pas cette sensibilisation.
Merci Edmond Izouba Likofaï Bikaï, journaliste collaborateur au groupe de presse Le Bon des Top Médias, paraissant à Kinshasa, manque de politique sanitaire en RDC.
Dire que totalement manque de politique sanitaire, c'est trop dire, dans la mesure où, dès lors qu'on parle d'une épidémie, une épidémie sous-entend une situation imprévue. Imprévue qui peut arriver à tout moment. Je connais un président américain qui était aussi victime d'une épidémie de la polio. Et j'ai bonne souvenance, il était mort de cette polio-là. C'est pour vous dire que lorsqu'on parle de l'épidémie, lorsqu'on parle de pandémie, ce sont des situations parfois qui sont inévitables. Mais c'est trop dur. Mais au contraire, vous avez été, vous n'êtes pas tombé dans la légèreté de mon estimé confrère Edmond. Vous lui avez posé la question, est-ce que mon peuple n'a pas aussi une part de responsabilité? Ici, on fait vœu perdre la polio. Vous pensez que non, dans les maladies dites des mains sales, la population n'a pas une part de responsabilité. Voilà comment mon peuple entretient les milieux environnants. La saleté, les poubelles sont placées où? Vous trouvez un terrassé devant la parcelle, c'est là où l'on jette tous les immondices de la parcelle. Vous bouchez le terrassé et vous voulez que qui vienne, et vous voulez que la solution vienne d'ailleurs. Moi, je pense in specie, les responsabilités sont partagées entre la population et l'État. La population doit aussi songer à assainir le milieu dans lequel ils vivent. Mais lorsque vous prenez tous les immondices de la parcelle, vous jetez devant votre parcelle, devant la parcelle, vous bouchez le terrassé et que vous vous attendez à quel sort, et demain lorsque ça va lorsqu'il y aura des effets d'entraînement ou bien de répercussions, vous allez maintenant commencer à chercher l'intervention de la première victime, c'est cette population là.
J'ai dit ceci,
s'il te plaît. Qui est-ce qui a dit que lorsqu'il n'y a pas de poubelle publique, vous devez jeter les humoristes devant votre parcelle? Vous trouvez ça logique? Parce qu'il n'y a pas de poubelle publique, vous devez bouger le terrassé. Madame, vous savez combien moi je suis parfois mal vu? Je vois le tas de sacs que mon peuple est en train de jeter dans la rivière. Les sacs de sacs.
Il faut éduquer la population.
Mais c'est ça. L'État a sa part de responsabilité. Nous, population, nous avons aussi notre part de responsabilité. Madame, chaque jour qui passe, le travail que moi je fais sur le terrain, comme lorsque je vois des sacs de saleté, des immondices qui sont jetés dans le terrassé et dans les rivières, qui bouchent les rivières, je me dis, mais cette population, qu'est-ce qu'elle veut, madame? Mais si nous ne devons pas toujours à venir ici pour condamner l'État, devons aussi faire en sorte que notre population soit aussi conscientisée.
Merci, Nico Fay.
Je voulais réagir rapidement.
Rapidement, justement.
Oui, parce qu'il ne m'a pas contredit.
Et non pas pour réagir.
Merci, Nico.
Exactement, parce que vous ne m'avez pas contredit, Nico. Allez même dans des hôpitaux publics, vous allez vous en rendre compte qu'actuellement, ils sont plus malades que le patient. À côté des hôpitaux publics. Toi qui affirmes ici qu'il y a une politique sanitaire.
Moi j'ai dit.
Comment comment peut-on trouver aller ici à l'hôpital général de Kitambo?
Mais il y a ça, c'est des... une digression.
Non, allez-y, Nico, allez, vous allez vous trouver qu'il y a un dépotoir public qui jusqu'à aujourd'hui c'est rempli d'immondices. Dis-moi, même les malades qui sont, ils en souffrent, qui sont hébergés actuellement à l'hôpital de Kitambo, ils en souffrent des odeurs à chaque fois. Allez-y partout, comment est-ce que les immondices sont éparpillés? Et là, c'est qui? C'est la ville de Kinshasa. C'est l'organisation urbaine qui n'arrive pas. Au-delà de cela, si l'État n'arrive pas à enlever les immondices ou les déchets ménagers, comment est-ce que la population elle-même saura s'organiser? Parce que les poubelles publiques ou les décharges de l'État ne sont pas du coup évacuées.
Merci Izuba. Jean Fouldi, qui paramoto, journaliste à la radio Flambeau de l'Orient, qui est maire à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Quelle est la situation chez vous, dans la province de la Tchopo, je veux dire?
Au sujet de
l'épidémie de choléra, est-ce que cette épidémie a touché aussi la province de la Tchopo?
Mais pas encore, mais je pense qu'il y a 2 mois, on en avait parlé à 45 km de Kisangani, c'était au nord, à Banalia. Mais avant Banalia, il y a eu des poches à Lubunga, de l'autre côté du fleuve, hein, la rive gauche. Et de l'autre côté de la rivière, à l'opposé, c'était un mois après, c'était là où le marché IAP. Depuis, je pense qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on guette aussi, on s'attend à quelque chose, d'autant que les socialistes disent que le risque de l'épidémie est là. Mais je vais un peu intervenir sur le sujet même qui passionne le débat aujourd'hui avec mes prédécesseurs. Quand on parle de 24 000 cas de choléra, c'est hallucinant pour un pays comme la RDC au XXIe siècle. Mais par-delà le fait de prendre position pour l'une ou l'autre partie, je partage le point de vue du fait que l'État est démissionnaire à certains égards vis-à-vis de l'épidémie, mais aussi la population. Mais personne ne met en cause les médias. Parce qu'au fait, le sujet, quand on parle de choléra, ils ont évoqué l'insalubrité, ils ont évoqué de mauvaises pratiques d'hygiène. Est-ce que les médias en parlent, si ce n'est que parler de politique? Parce que comme on ne peut pas leur payer pour parler de choléra, personne n'en parle. Moi, je vais peut-être vous dire une chose. Si vous prenez la carte des captages d'eau de la régie des eaux, là où le captage est difficile, ça se fait en dehors du fleuve, la maladie n'est pas tellement grave, mais là ça se fait autour du fleuve. Parce que si vous voyez même à Tanganyika, le médecin, selon un sujet de Radio Okapi, il avait dit que la maladie se déclare dans les quartiers du village, là où l'eau potable n'est pas là, ou là où il y a de l'eau potable et les gens ne veulent pas l'utiliser. Moi je pense que si tout le monde créait un forum pour discuter de toutes ces tous ces risques, il n'y a pas que le choléra, il y en a d'autres. On ferait mieux, on ferait autant qu'on fait pour faire la publicité des préservatifs. Je pense qu'on ne serait pas dans, on tomberait pas sur 24 000 cas de choléra dans le pays. 20 provinces sur 26, c'est quand même hallucinant, madame.
Il y a donc un problème de sensibilisation.
Il y a l'habitude. Oui, la presse a l'habitude de charger l'État, de prendre parti pour l'un ou l'autre, mais l'opposition aussi a une part de responsabilité. Pourquoi est-ce que l'opposition ne réclame que l'alternance? Pourquoi l'opposition ne peut pas réclamer la démission des gens qui sont à charge de la salubrité? Pourquoi l'opposition ne peut pas être permanente et constante pour un peu jouer le thermomètre, jouer la donnée d'alerte de tel type de situation? Pourquoi est-ce que la société civile ne peut pas le faire? Du moment que tout le monde ne voit que politique, du moment que tout le monde ne voit que des postes à occuper après un changement de l'alternance, madame, nous n'allons pas sortir de cette situation. Tout de suite, je viens de suivre mes deux amis, mes deux prédécesseurs. L'un dit que c'est l'État, l'autre dit pas c'est l'État. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'un qui a toutes les fautes, c'est lui le diable, et de l'autre côté, c'est des anges. Je pense que, madame, la situation qui prévaut au pays, c'est une occasion pour nous de nous réunir, de créer des forums, d'essayer de réfléchir globalement, de penser globalement notre société et d'associer au débat, madame, des chimistes, des spécialistes de l'eau. Il en a partout à la régie des eaux. Mais quand j'entends les invités parler, c'est des journalistes comme nous, tant mieux, c'est des médecins, mais les gens, les chimistes qui peuvent mieux nous parler de l'eau, où sont-ils? Les maires des villes dans le pays, en République démocratique, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Puisqu'on parle d'insalubrité, c'est comme s'il y aura un ange qui va descendre pour, disons, rendre la ville propre, que font les maires des villes, dans toutes les villes de la RDC? Que font-ils? Renflouer les caisses du parti? Qu'est-ce que le pays finalement? C'est là où, quand une épidémie va surgir en l'absence de l'OMS et de l'UNICEF, que deviendra ce pays? Ce sera un grand tombeau à ciel ouvert. Voilà ce que je voulais dire à propos du choléra, madame.
Nico Fayambikaï, comment éradiquer cette épidémie?
Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord rectifier ce que Edmond vient de dire. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a des politiques sanitaires. Je dis, reconnais qu'il n'y a pas de politique sanitaire. Et j'ai dit à ce niveau que les responsabilités sont partagées entre les gouvernements, entre l'État et le gouverné. L'État a sa part de responsabilité et de même aussi les gouvernés ont aussi leur part de responsabilité.
Comment éradiquer cette épidémie?
Il faut que l'État arrive au moins à multiplier le service d'hygiène et à évacuer aussi, à assainir le milieu dans lequel les gens vivent et de l'autre côté aussi, que la population arrive aussi à comprendre que quand bien même l'État a cette responsabilité, mais le premier responsable ou bien la première victime en cas de répercussion, ce sera la population elle-même. Je demande à la population d'assainir les milieux environnants et que l'État aussi, ceux qui sont les immondices, les déchets qu'on sort, ne soient pas entassés comme j'en vois aujourd'hui des montagnes et des montagnes. C'est inacceptable. Cela soit évacué à temps pour éviter des effets d'entraînement.
Edmond Nzouba, brièvement, la solution pour éradiquer...
C'est regrettable, quand bien même je propose la solution, mais je me demande, dans notre pays, quel est le secteur qui va mieux? Ça n'existe pas. Donc, la solution serait aussi, quelque part, le départ de ces régimes qui... brandit par un échec patent de tous les secteurs de la vie nationale. Il n'y a aucun secteur aujourd'hui. Le Congolais peut tranquillement se reposer. Il faut toujours un casse-tête pour trouver de voies et moyens. Donc je crois pour moi, son départ, le départ de ce régime faciliterait beaucoup de choses et peut-être l'alternance. Je soutiens également Fondi qui Paramoto qui est en train de dénoncer ou de décrier le manque de civisme dans certains domaines de la vie nationale. Je l'encourage, pourquoi pas aujourd'hui le rassemblement pourrait aussi organiser des marches pour ces genres de choses, par exemple pour ces épidémies, pour que ça mette fin. Ils sont toujours là pour dialogue, ainsi de suite, qui ne trouve pas des solutions à des questions directes de la population.
Merci Edmond Nzouba. Deuxième et dernier thème de ce soir, province du Nord Kivu. Des journées villes mortes et des manifestations sont observées depuis la semaine dernière dans les villes de Butembo et de Beni pour dénoncer l'insécurité persistante dans cette partie du pays. Face à cette situation, la société civile exige la démission du comité urbain de sécurité qu'elle accuse d'avoir failli à sa mission de sécuriser la population. Christian Mapendano nous fait le point.
C'est depuis le 18 août dernier que la société civile avait lancé un ultimatum de 2 semaines aux autorités urbaines de Butembo pour mettre un terme au cycle d'insécurité qui frappe cette ville du Nord Kivu depuis pratiquement 10 mois, et à défaut, le maire et tout son comité de sécurité devaient démissionner. Et au lieu que la situation s'améliore, la société civile note que l'insécurité prend de l'ascension, des incursions nocturnes par des hommes armés, des pillages et tueries ont été enregistrés. Pire encore, certains acteurs de la société civile vivent actuellement dans la clandestinité. Ils disent être victimes de menaces de la part de certaines autorités. Les conséquences de ces manifestations sont évidemment énormes. Butembo est une ville commerciale et d'ailleurs la première dans la province du Nord Kivu. La Fédération des entreprises du Congo parle de pertes en termes de millions de dollars. Même plusieurs habitants de Butembo se plaignent du fait que ces manifestations semblent bloquer le cours normal de la vie. Dans le secteur de l'éducation, il y a par exemple les élèves et les étudiants qui sont obligés de passer des jours sans se rendre à l'école.
Merci Christian Mapendano. Jean Fundi Kiparamoto, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Flambeau de l'Orient, qui est maire à Kisangani dans la province de la Tchopo. Quelle lecture vous faites de la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Beni Butembo, mais surtout Butembo.
La lecture que je fais, ce que je disais même pour le cas du choléra, n'est pas globale. Hein. C'est une lecture sur des faits qui surgissent et tout le monde réagit comme le disait mes prédécesseurs. On attend que quelque chose arrive pour pouvoir réagir, peut-être c'est trop tard. Je me rappelle qu'il y a entre 2014 et 2016, la société civile avait demandé le départ d'un général Mundos, qui était à la tête de l'opération Sokola, le qualifiant de faire le trafic avec les ADF. Depuis qu'il est parti, rien n'a changé. Je me rappelle aussi qu'il y a eu des villes mortes à Beni, il y a eu des villes mortes à Butembo, rien n'a vraiment pas changé, sauf que quand la MONUSCO, en collaboration avec les FARDC, avait bombardé un grand repère de rebelles et que ça avait un peu diminué. Mais je me rends compte que dans tout ce que l'on dit, il y a toujours l'État. C'est la même musique. Et je me demande même si ces gens-là, on ne demande pas de répéter cela. Parce que tout le monde dit la même chose. Prenons d'abord le contexte de la région de Butembo, qui est une région qui est très riche, à la frontière avec l'Ouganda. Et là où se trouvent les rebelles, les ADF, c'est des terres qui sont riches en or, en tout ce que vous savez, en bois. Mais il faut aussi s'interroger sur certaines questions avant de la sécurité de ces jours. Comment en est-on arrivé au fait que les ADF, qui étaient des opposants armés au régime de Museveni, et les Nalu, qui étaient d'autres opposants armés, sont ensemble pour qu'au Julien pas des ADF Nalu. Mais quand la société civile met au pilori l'État, à raison peut-être parce que l'État est défaçant, on le sait, sans devoir aussi mettre d'autres parties prenantes de la crise, de l'insécurité devant leur responsabilité, je pense qu'il y a à s'interroger sur les vraies motivations. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a que, si je lis bien sur Ayotapi, il n'y a que Sepado qui avait dit que l'insécurité est due au fait qu'il y a le phénomène de Maïmaï qui prend de l'ampleur. Le phénomène de Maïmaï, tout le monde connaît, c'est des milices tribales qui revendiquent les voies à la terre et souffrent de chasser l'étranger. Mais aussi, Sepado dit ceci, que les attaques doivent cesser contre les forces de l'ordre. Ce que je ne comprends pas, quand la sécurité commence, les milices s'attaquent aux forces de l'ordre, il y a des populations civiles qui les accompagnent dans la rue, demandant même le départ des forces de sécurité. Je pense que, madame, il faut que la société civile sorte de cette hypocrisie-là. Elle doit dénoncer, oui, le gouvernement de Ferrand, mais aussi dénoncer par-delà le gouvernement d'autres acteurs de l'insécurité.
Merci Jean Foundi, on n'a plus beaucoup de temps. Nico Faye Mbikaï, la société civile a-t-elle raison de demander la démission du comité urbain de sécurité? On sait que cette zone est quand même très militarisée. Comment expliquer cette résurgence des groupes armés qui inquiètent la population?
Quelle société civile? Malhonnête ici? Je me suis toujours posé la question s'il faut parler encore de la société civile au Congo Kinshasa. La société civile existe au Congo. Une société civile qui demande des postes de gestion, elle n'existe pas au Congo. Ce sont des gens qui cherchent à faire la politique à moindre coût. Pour revenir à la situation sécuritaire, c'est là où tous les gouvernements qui se sont succédés au Congo-Kinshasa ont échoué. Lamentablement sur toute la ligne. On ne peut pas comprendre que dans les sites, dans les provinces qui sont fortement militarisées et que ce genre d'assassinats, ce genre de crimes qui deviennent récurrents, en tout cas, ça étonne, mais jusqu'à ce point-là, alors qui va sécuriser qui? Qui va sécuriser qui? C'est comme aussi, par exemple, ici à Kinshasa, les sites des policiers sont sécurisés aujourd'hui par l'armée. C'est-à-dire, la police, elle est débordée, mais ils ne suffisent pas aussi de se limiter seulement pourquoi elle est débordée. Devons aussi aller plus loin, pourquoi, chercher à savoir pourquoi elle est débordée et pourquoi elle est démotivée. Or, ce sont des situations déplorables, on cesse de déplorer, mais on ne trouve pas solution. Or, l'État, dans ses missions régaliennes, l'État, c'est la seule personne qui est dotée du monopole des contraintes physiques. Mais si à ce stade, lorsque la sécurité devient de plus en plus inquiétante, je me dis en ce moment-là, on frise maintenant la jungle. On ne sait pas qui gère qui, on ne sait pas qui sécurise qui peut protéger qui.
Merci Nico Faye Mbikaï, Edmond Izouba. Votre mot sur la situation sécuritaire à Butembo qui devient de plus en plus inquiétante.
C'est lamentable. En suivant même Fondi qui part à moto, vous vous rendrez compte, lui il a vraiment dressé les bilans, ça fait 20 ans que la population est sombrée dans ces genres d'insécurité, des manières permanentes et récurrentes, des hostilités des rebelles qui s'accroît du jour au lendemain, aux yeux et aux vues de forces loyalistes et des Nations Unies qui est sur place, qui n'arrive pas. Vous le savez, madame, l'horreur de ce régime, c'est de vouloir chercher comment négocier avec ces rebelles. C'est-à-dire quoi? On a voulu offrir le rebelle, les assassins de la République, le bandit des grands chemins, le frotteur de troubles, le gâteau sur le plateau d'or. Voilà, maintenant, ça se transforme. Ce même rebelle a développé plusieurs mécanismes. Ils peuvent œuvrer en un seul mouvement, mais ils se sentent émiettés en plusieurs regroupements pour commencer à lasser ce qu'on appelle des revendications farfelues. Voilà maintenant leur mode opératoire. C'est maintenant les rapts et les kidnappings. Comme ils savent que l'État congolais est doux en matière de négociations, ils vont aller en négociation en lieu frappe, en lieu place de frapper. Vous avez vu au Kasaï comment est-ce que nos forces ont agi sans froid au dos, ont tiré sur les adeptes de Kamuila Sapa aujourd'hui, en suivant le Premier ministre hier sur le plateau de TV5, le qualifiait déjà de terroriste. Mais pourquoi pas à Beni? Pourquoi pas à Butembo? Pourquoi pas dans la partie est de la République démocratique du Congo? Donc c'est devenu une sorte, je dirais, de jeu, de chien de défaillance. À un moment, si l'armée, là, le rebelle ne se manifeste pas, quand l'armée va se déplacer, c'est maintenant le rebelle qui viendra pour faire chanter l'État congolais. Voyez maintenant ce que font actuellement les coupeurs de route à Butembo. Voyez maintenant ce que font le rebelle avec nos richesses naturelles. Mais c'est le jeu de l'ennemi. C'est le jeu du Rwanda. C'est le jeu de l'Ouganda. Ils sont là pour exploiter le charbon. Ils sont là pour exploiter plutôt nos minerais. Mais est-ce que si réellement leurs soucis étaient basés à leurs revendications telles que je viens de suivre qui par moto, ils sont en train de revendiquer les terres, ils ne devraient pas commencer à les exploiter ou à exploiter nos richesses naturel. Donc je vois que derrière ces rebelles, derrière ces revendications, il y a toujours le souci du Rwanda, le souci d'Ouganda de piller nos richesses et de manière frauduleuse.
Merci Edmond Izouba, c'est la fin de cette émission. Merci à vous chers confrères d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à Alain Rung qui était à la réalisation sous la supervision de Pélequipe et la Mondo. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la prise de son. Au micro, Kéline Couté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.